et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire ou par sa vertu, ou bien peut-être à sa propre gloire et à sa vertu, il est difficile de savoir. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption, ou bien plus littéralement, en étant arrachés à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, le désir fort et ici mauvais. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, l'égard pour Dieu, la relation avec Dieu, la crainte de Dieu, à la piété, la fraternité, l'affection fraternelle, et à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses, si ces qualités existent en vous et s'y multiplient, et grandissent, elles ne vous laisseront pas sans activité, ou sans productivité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre verset clé de ce matin, verset 9, « Mais celui qui ne les possède pas, donc ses qualités, est un aveugle, il a les yeux fermés, littéralement il dit qu'il est myope, qu'il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre appel ou votre vocation, le fait que Dieu vous ait appelé au salut, et votre élection. Soyez sûr d'être chrétien. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous aurons devant le Seigneur et devant sa parole quatre choses à considérer ce matin en essayant de comprendre un des chapitres les plus riches du Nouveau Testament en ce qui concerne la vie chrétienne. Si vous avez bien suivi la lecture, vous avez vu son potentiel, donc son activité, ses promesses, ses qualités et un peu ses problèmes. Et encore plus, tout cela se retrouve dans ce passage. Et si nous allons nous focaliser sur le verset 9, ce n'est pas que je pense, ne vous connaissant pas, que vous êtes tous des chrétiens qui sont devenus myopes et qui ont un problème dans la vie chrétienne. Mais ce que nous allons dire là-dessus va nous aider où que nous soyons dans notre vie chrétienne. D'accord? Alors, la première chose. La vie chrétienne a une forme. La vie chrétienne a une forme. Parfois, on se salue en France, peut-être un peu plus les jeunes et peut-être un peu plus les jeunes sportifs en disant « en forme » ou « la forme ». Et cela présuppose qu'il y a une forme physique et émotionnelle à la vie et on veut demander si la personne est dans cette forme-là. Et la vie chrétienne aussi a une forme. Et au début de ce chapitre, Pierre nous décrit la forme de la vie chrétienne. Il ne dit pas tout, il faut aller à d'autres passages pour comprendre certaines choses. Mais regardez bien, très rapidement. Pierre nous dit que la vie chrétienne est une vie équipée. Parce que dans le verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue ou bien tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. »
La vie chrétienne, sa forme, c'est une vie enrichie, parce que nous avons reçu dans le verset suivant des promesses très grandes et précieuses de ce que Dieu va accomplir richement en nous. La vie chrétienne est une vie transformée. Il nous dit ici dans le verset 4 que nous allons devenir quelque chose que nous n'étions pas. Devenons participants à la nature divine. Si nous allons plus loin, nous voyons que la vie chrétienne est une vie en croissance. Il dit que si ces qualités sont à vous et sont en train de se multiplier, la forme de la vie chrétienne en forme, lorsqu'on est en forme, c'est véritablement une vie en croissance. Même si cette croissance n'est pas complètement régulière, nous avons des revers, nous avons des luttes, nous avons des difficultés dans la vie chrétienne. Il faudrait aller à d'autres passages pour voir cette partie de la forme de la vie chrétienne. Mais ça ne contredit en rien ce que Pierre dit. Donc une vie équipée, une vie enrichie, une vie transformée, une vie en croissance, une vie active, parce qu'il dit « faites tous vos efforts ». Donc nous sommes pleinement engagés dans nos efforts dans cette vie chrétienne. Ça, c'est sa forme. Même si la puissance de Dieu agit en nous, si Dieu agit en nous, nous aussi, nous sommes pleinement en activité. Ça, c'est la vraie forme d'une vie chrétienne. Et nous pourrons dire aussi que c'est une vie productive. Une vie productive parce qu'à la fin, il parle du fait que si nous sommes en forme, ça ne nous laissera pas sans activité ou sans productivité et sans fruit. C'est-à-dire, quand le chrétien a une vie chrétienne en forme, il est en train de produire quelque chose dans sa vie pour Dieu, et cette chose, c'est ce que Dieu voulait dans son plan avoir de notre part, pour glorifier son nom qui est si digne, notre Créateur et notre Sauveur. Bien, voilà pour la forme de la vie chrétienne. Comment est-ce que ça vous frappe? C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, n'est-ce pas? Ce n'est pas sans lutte. Ce n'est pas sans lamentation, bienheureux ceux qui se lamentent, mais ce côté que Pierre décrit est absolument vrai d'une vie chrétienne en forme. Absolument vrai. Et ce n'est pas simplement quelques gens spéciaux qui peuvent avoir une vie chrétienne avec cette forme. Parce que dans le premier verset, Pierre dit « serviteurs et apôtres de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Et entre autres, ici, Pierre est en train de nous dire que vous avez la même sorte de foi, la même sorte de relation avec Dieu que moi. Bien, ça c'est le premier point. La vie chrétienne a une forme et nous devons nous demander et essayer de le faire avec la plus grande humilité, est-ce que c'est ça mon image de ma vie chrétienne? Ce que j'attends, mes attentes vis-à-vis de la vie chrétienne, une vie équipée, et enrichie, en croissance, une vie active, une vie productive, fructueuse, une vie où je suis en train de grandir dans la connaissance, dans la maîtrise de soi, dans l'affection fraternelle, dans l'amour, ainsi de suite. Bien. Et il nous convient de comprendre de manière spécifique cette forme de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas dans le flou. Non, nous allons maintenant à une deuxième idée, une deuxième réalité. Parfois, la vie d'un chrétien est mal en forme. La vie chrétienne a une forme, mais parfois, la vie d'un chrétien est mal en forme. Pierre nous introduit à cette réalité dans le verset 9, mais je vais lire le verset 8 d'abord. Il dit « Si ces choses existent en vous, » il parle directement à ses lecteurs, et s'y multiplie, elles ne vous laisseront pas sans activité ni fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui, il ne dit plus vous parce que c'est peut-être pas le cas, il donne un cas général, mais celui qui ne les possède pas, celui qui ne possède pas cette forme de la vie chrétienne, est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, C'est pourquoi, frères, efforcez-vous, on retrouve le vous, d'autant plus d'affirmer votre vocation, ainsi de suite. Pierre est en train de nous alerter aussi qu'il existe la possibilité qu'un chrétien tombe mal en forme. Maintenant, il est sûr que Pierre a dans sa pensée la possibilité de faux convertis, de gens qui se pensent chrétiens et qui ne sont pas. Comment le savons-nous? Parce qu'il dit que nous devons tâcher de nous rendre sûrs de notre appel et de notre élection. Parce qu'il se peut que nous ne soyons pas vraiment de vrais croyants, et ça explique pourquoi nous sommes mal en forme. D'accord? Mais Pierre, sans doute aussi, a dans sa pensée de vrais chrétiens. Parce qu'il nous parle dans des termes qui doivent inclure les chrétiens quand il dit « Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Il pense à des gens qui ont été purifiés, mais dont le problème est qu'ils ont oublié ce qui leur est arrivé. D'accord? Donc, il est possible, et ce n'est pas forcément, ce n'est pas toujours un cas extrême. Ce n'est pas toujours un cas extrême. Il n'est pas nécessaire d'être complètement mal en forme et complètement stagné dans sa vie chrétienne pour avoir besoin de l'enseignement de Pierre aujourd'hui. Nous pouvons faire un peu de surplace dans la vie chrétienne, et je serais étonné s'il n'y a personne ici qui soit passé par ces phases. Je serais très étonné parce que moi, je me retrouve vraiment dans cette situation. Donc, ça, c'est le deuxième point. Il existe un état de chrétien mal en forme. Ça peut durer très longtemps, au moins longtemps. Nous arrivons donc au troisième point. Parfois, et je dis bien parfois, parce que Pierre nous donne un cas de figure. Nous pouvons trouver d'autres cas de figure ailleurs. Mais Pierre nous dit dans ce verset 9 que parfois la raison de la mauvaise forme spirituelle d'un chrétien, c'est un problème sérieux de vue, de vision, de vue. Nous relisons donc dans ce verset 9, « Mais celui qui ne les possède pas, est aveugle, je préfère, c'est plus exact. Il ne dit pas « il est un aveugle », mais il dit « il est aveugle » et il explique « il a les yeux fermés ». Littéralement, Pierre dit « c'est quelqu'un qui est myope jusqu'au point virtuellement d'être aveugle ». C'est ça ce qu'il veut dire. Ne prenez pas la lettre, l'aveugle spirituel, c'est un non-chrétien. Mais Pierre est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est tellement myope que, pour ainsi dire, dans la réalité, il est en train de vivre comme quelqu'un qui ne voit pas quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si il vous est arrivé d'avoir ces phases dans votre vie chrétienne où vous savez que ça va pas bien. Mais dans ces situations, en tant que pasteur, je me rends compte que très souvent, les gens immédiatement se disent une chose. Je suis mal en forme parce que je suis en train de faire cela et cela et cela qui n'est pas bien, ou bien ne pas faire ceci et ceci et ceci qui est nécessaire. Je ne prie pas assez ou je fais ceci. Et souvent, les gens, leur premier réflexe, c'est que la faiblesse ou le déclin de ma vie chrétienne vient de ce que je suis en train de faire ou ne pas faire. Ce n'est pas tout faux, mais ce n'est pas ce que Pierre dit. Il nous étonne complètement. Pierre dit que le problème principal, et il y a toujours plus d'un problème, les facteurs deviennent multiples lorsqu'on tombe en déclin, mais parfois il y a un facteur de racine. Et Pierre nous donne une seule chose. Il ne va pas parler de tout ce qui peut contribuer. Il va parler d'une chose, et ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire ou ne pas faire. Il dit que ce problème n'est pas autant vos actions que votre vue, votre manière de voir, de concevoir, de comprendre, de vous comprendre en tant que chrétien. Maintenant, Pierre dit que c'est un problème grave, parce qu'il parle carrément d'aveuglement. Et nous savons tous que quand nous voyons une personne malvoyante, aveugle, nous devons avoir une vraie compassion. Nous sentons que c'est vraiment, ça produit une invalidité très importante dans sa vie. Et c'est le cas du chrétien myope. Il a un problème désastreux pour sa vie, un problème dont il peut se débarrasser, mais tant qu'il l'a, c'est vraiment très très, ça mine votre vie chrétienne. Donc, un problème grave de vue. Pierre utilise une autre expression, il parle de l'oubli. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas la vue physique qui va mal chez vous ou chez moi lorsque ça ne va pas bien spirituellement. Il parle de l'œil de la foi, les yeux de la foi. Nous sommes devenus myopes spirituellement. Parce que vous savez, quelle est votre faculté de vue dans le domaine spirituel? C'est la foi, n'est-ce pas? Par la foi, vous vous rendez compte de réalités invisibles. Et vous dites, ça c'est vrai. Et vous puisez dans ces réalités invisibles du Christ et de sa rédemption. Ces choses sont réelles, objectives et à votre portée. Et l'œil de la foi vous permet de les voir et de vous en saisir. D'accord? Mais lorsque vous ne voyez plus ces choses, là, vous allez vivre comme si ces choses n'étaient pas là. Tout comme la personne myope vit comme si la chose devant lui n'était pas là. Ça va? Vous y êtes? Maintenant, l'oubli. Pourquoi est-ce que aveuglement et oubli peuvent aller ensemble? Récemment, donc je crois que c'était au début de l'été, je suis allé voir un homme avec un membre de notre église. Cet homme est un collègue instituteur, collègue de du membre de notre église. Nous sommes allés le voir parce que depuis 2 ans, il a de multiples cancers. Et donc cette dame dans notre église lui fait part de l'évangile depuis 2 ans, de manière très fidèle. Et il fait du chemin. Donc elle lui a parlé du pasteur depuis un certain moment et enfin il a accepté il a voulu me voir pour aller un peu plus loin dans son cheminement. Je suis allé le voir. On a passé de très bons moments ensemble, un assez long moment pour quelqu'un qui était malade. On a voulu être sensible, mais on a beaucoup parlé. 2 mois et demi plus tard, il a demandé à me revoir. Je suis allé avec le même membre de notre église. Nous sommes arrivés à la porte. On a frappé, il a ouvert, il a salué donc la dame et puis il a dit bonjour monsieur. L'étonnement de cette dame qui est mon amie a dit tu ne te rappelles pas de David? Il a dit David? Il n'avait aucun souvenir de moi. Oubli total. Il me voyait, mais il ne voyait pas mon identité. Il était aveugle à mon identité à cause d'un oubli. Ou si vous voulez, voilà une personne avec un cas d'Alzheimer avancé. Une dame âgée, un jeune homme rentre dans la pièce où elle est, elle voit la personne, mais elle n'a pas vu son fils entrer dans la pièce et c'est son fils. Elle a vu simplement un homme entrer. Elle ne voit pas son identité à cause de l'oubli qui la mine. Maintenant, vous, en tant que chrétien, parfois, vous devenez tellement myope que vous oubliez votre identité. Vous savez que vous êtes vaguement chrétien, mais vous ne voyez plus du tout ce que ça veut dire. Et c'est de cela que Pierre est en train de nous parler en disant que cette personne est myope, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous y arrivons. Nous allons essayer de comprendre tout cela. Mais ça nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'il a oublié? Ou qu'est-ce que vous avez oublié, vous, quand vous êtes mal en forme? Si vous êtes dans ce cas de figure, La parole inspirée nous dit qu'une chose que vous avez oubliée, c'est la purification de vos anciens péchés. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a des gens qui pensent que ça parle du pardon. Sans doute entre autres, mais pas principalement, je crois. Ils disent, bon, le problème, c'est que tu as oublié que Dieu te pardonne, et comme tu as oublié le pardon, tu n'as pas de gratitude, et tu n'as pas donc le moteur pour la vie chrétienne. Ce sont des concepts bibliques, mais sans doute pas ce que Pierre est en train de nous dire. Pour une chose, je ne peux pas gaspiller le temps pour vous montrer tout le pourquoi, mais je vais vous donner deux raisons pour penser qu'il est en train de parler d'autre chose, principalement. Premièrement, si Pierre voulait nous dire que vous avez oublié le pardon, il n'aurait pas mis dans un passé. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Il l'aurait mis comme Jean dans le présent. Il a oublié que le sang de Christ nous pardonne au présent de tous nos péchés. Parce que le pardon dont nous avons besoin, c'est un pardon qui n'est pas juste pour les péchés du passé. Mais il faut bien voir que Pierre parle de quelque chose qui s'est passé définitivement et qui ne se répète pas. Il a oublié la purification qui s'est passée une fois pour toutes, la purification de ses anciens péchés. Maintenant, pour expliquer cela, nous devons nous rappeler ce que c'est que la purification. Ok, pensez l'eau. L'eau. Le lavement. Dans la Bible, qu'est-ce que ça signifie d'être lavé? Dans la Bible, être lavé signifie que Dieu fait quelque chose par rapport à mon passé, et mon statut du passé, pardon, mais qui change mon futur de sorte que je suis libéré pour une nouvelle vie. Par exemple, le criminel, lorsqu'il reçoit le pardon, ça change son statut, mais ça change sa capacité aussi parce que ça le libère de la prison. D'accord? Si nous voulons prendre un autre exemple, nous allons nous coller au texte biblique parce que Pierre, selon tous les commentateurs, est en train de se référer au baptême. Il a oublié son lavement de ses anciens péchés. Maintenant, vous avez été baptisé? Qu'est-ce que ça signifiait quand vous avez été baptisé? Parce que là, le baptême est une parole visuelle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand un nouveau converti se fait baptiser, on va prendre ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau. Il disparaît. La Bible dit qu'il est enterré avec Christ dans le baptême, mort avec Christ et ressuscité. Et il se lève de l'eau, il est lavé, il est purifié. Et on voit que l'ancienne personne a été laissée. L'ancienne personne esclave, dont le péché dominait sa vie, n'est plus là. Christ a effectué un changement radical dans votre rapport vis-à-vis du péché. Le péché vous dominait, cela n'est plus le cas. Vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes uni au Christ ressuscité et vous avez une capacité de grandir et de ne pas vous laisser dominer par le péché. Je vous donne un autre exemple. Le baptême est une frontière. Les eaux du baptême et de la purification sont une frontière entre deux mondes ou deux vies, avant et après. Les Israélites ont été baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer, dit Paul en 1 Corinthiens 10. Alors, c'est peut-être plus concret pour vous si vous voyez. Voilà la mer Rouge. Avant de passer dans l'eau, les Israélites étaient esclaves. Ils avaient un rapport vis-à-vis des puissances dans leur vie, Pharaon et tout le reste. Ils étaient esclaves. Après le passage de ces eaux de jugement, jugement pour les Égyptiens et purification pour eux, ils sont arrivés sur l'autre rive, ils ne sont pas le même peuple. Ils sont un peuple libre maintenant, ils peuvent faire maintenant ce qu'ils n'auraient jamais pu faire avant. C'est ça que vous avez oublié. Lorsque vous êtes mal en forme, vous avez oublié que Vous avez été changé et vous êtes une personne pieuse, capable de vivre la vie chrétienne. Je voudrais vous donner peut-être une petite illustration. J'avais une fois un jeune homme qui faisait partie d'un groupe de jeunes dont je m'occupais. Il était un joueur de basket. J'aimais beaucoup le basket aussi. Il était un très bon tireur, avait beaucoup de talent, mais aucune confiance en soi. Et donc, quand il jouait dans l'équipe, il jouait vraiment pas à sa hauteur. Moi, je jouais beaucoup avec lui, chez lui, et le voir dans le match, c'était deux personnes différentes, malheureusement. Et une fois, il a joué dans un match très hésitant, comme s'il voulait même pas qu'on lui donne le ballon. Et donc, après le match, il a dit à son père, voilà cet ado qui dit « Papa, je suis très content, je n'ai pas fait une seule erreur dans le match aujourd'hui. » Voilà, il se contentait de ne pas avoir fait une gaffe. Il n'a rien fait de positif, mais il n'a pas fait de gaffe. Et parfois, notre vie chrétienne, on est là. Nous ne faisons pas de gros péchés, mais nous ne faisons rien de très positif, de productif, de fructueux. Pourquoi? Pour lui, c'était sa manière de se voir. Il se voyait comme quelqu'un incapable vraiment de jouer un bon match. Pas un vrai joueur chrétien, bon joueur de basket. Maintenant, je ne vous parle pas de la pensée positive, il faut penser positivement, je parle de la réalité objective. Si ce jeune aurait pensé à lui en termes objectivement vrais, il aurait joué avec une attitude différente, une approche différente, une pensée différente, des actions différentes, tout aurait changé. Et si vous pensez à vous-même en termes de ce que vous êtes devenu véritablement et ce que le rachat du Christ, la délivrance du Christ signifie vraiment pour vous, alors vous aussi, votre approche à la vie chrétienne va complètement changer. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, je me suis perdu juste un peu, je vais essayer de me retrouver, excusez-moi. Oui. Donc, parfois, un chrétien tombe dans cette... dans ce pessimisme de ce jeune joueur de basket, et au fond de lui, presque inconsciemment, il est en train de se parler constamment, sans s'en rendre compte, en disant « Je ne suis pas vraiment un homme de prière, une femme de prière, comme je lis dans les livres, les biographies, mais comme je ne peux pas avoir la conscience tranquille sans prier, je veux prier, je suis chrétien, je prie, mais sans prier. » Ou bien cette lutte contre l'inquiétude, ou la colère, ou l'orgueil, ou la convoitise. Il faut que je lutte, je dois lutter, je ne peux pas être content de ne pas lutter. J'aime le Seigneur, mais je sais que je ne vais pas vraiment commencer à dominer ce péché. Je ne vais pas progressivement faire de vrais progrès. Je vais rester là où j'ai toujours été. L'expérience me l'apprend. J'en suis convaincu. Comme ce jeune homme, je ne vais pas vraiment jouer un bon match, je vais toujours rester là où je suis. Je suis l'ancien homme, je ne suis pas passé par les eaux, rien n'a changé fondamentalement. Je ne suis pas une personne véritablement capable. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi comme cela, mais je crois que tout travaille dans notre cœur pour nous pousser dans ce sens, enfin tout ce qui est mauvais. Notre péché, notre cœur, les chutes, nos difficultés dans la vie chrétienne, et Satan lui-même. Pour essayer de fermer nos yeux, de nous aveugler à la grande réalité que, en Christ, nous sommes, vous êtes capables de vivre une vraie vie chrétienne fructueuse, une vie de prière, une vie progressivement sainte, se conformant plus en plus à l'image de Christ, de plus en plus sage, connaissant et rempli de joie et de paix. Mais est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croyez véritablement? Ou bien est-ce que vous êtes un peu myope? Donc voilà ce que Pierre nous dit. Il est myope, il a oublié, c'est-à-dire il ne croit plus vraiment qu'il est quelqu'un rendu capable en Christ, divinement fourni de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ainsi de suite. Donc, nous abordons le quatrième point. Nous avons vu que la vie chrétienne a une forme, mais que le chrétien peut être mal en forme parfois, et parfois, la raison pour ce mal en forme, c'est la myopie d'avoir oublié ce que nous sommes devenus en Christ. Ce que nous sommes devenus. Dernier point. Et je vais essayer de juste vous donner quelques pistes parce que il va falloir que vous ayez un enseignement plus appuyé sur les détails de ce chapitre pour voir où Pierre va nous amener après. Mais simplement, un chrétien peut retrouver la forme dans sa vie chrétienne. Un chrétien peut retrouver la forme. Et je crois que le chapitre nous conduit vers deux idées. Et la première de cette idée, c'est que nous devons recouvrir la vue. Nous devons recouvrir notre manière de nous voir nous-mêmes en Christ. Et parfois, je demande aux gens simplement de faire ceci. La prochaine fois, nous allons prendre une ou deux exemples concrets. Vie de prière, lutte avec un péché comme la colère ou comme l'inquiétude, ou bien donc la recherche d'être quelqu'un qui positivement est hospitalier ou qui témoigne aux autres. Trois différents problèmes de la vie chrétienne. Je demande aux gens parfois de la prochaine fois que vous allez prier, au lieu d'avoir au fond de vous cette idée que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui sait prier, je n'ai jamais prié comme il fallait, je vais jamais vraiment grandir dans ma vie de prière, je reste l'ancien homme, dites-vous, en Christ, je suis un homme, je suis une femme qui a tout ce qu'il faut pour contribuer à la vie et à la piété, pour avoir une vie de prière. Pas tout de suite, pas d'un coup, mais petit à petit, mais réellement, réellement, à cause de l'œuvre de Dieu et la présence de Christ et son esprit en vous, réellement, absolument, et aucune hésitation là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous vous considériez comme cela à genoux? Parce que vous voyez, c'est très différent la manière d'agir de quelqu'un qui se pense fondamentalement incapable et la manière d'agir de quelqu'un qui se pense capable. Le jeune homme, s'il avait changé d'idée sur le terrain de basket, et s'il pensait sincèrement, selon son identité, ses capacités, agir avec confiance, il aurait utilisé ce qui était à lui. Et tranquillement, avec la confiance en Christ, un cœur très dépendant, un cœur très confiant, disant, Christ m'a changé, il est avec moi, les promesses sont les miennes, à genoux, je commence à prier comme une personne qui peut prier. Parce que je peux en Christ. Et c'est une... Ça change. Ça change la manière de lutter contre la colère. Ça change la manière d'aborder le problème, de devenir plus hospitalier ou plus courageux dans le témoignage. Mais c'est une manière de penser, une manière de voir qui est différente. Ça ne va pas arriver dans ce sermon. C'est quelque chose... On accomplit peu dans la plupart des sermons. Mais je vous dis que si vous prenez ce que Pierre vous dit et vous commencez avec la grâce de Dieu, avec détermination, à appliquer, à penser à vous en ces termes et que cela imprègne votre vie, il ne peut qu'y avoir un changement complet. Pierre le dit lui-même. Pierre le dit lui-même. Par implication. Quand vous cessez d'oublier la purification de votre ancien péché, vous allez commencer à avoir ces qualités qui, dans sa liste, et les voir grandir. C'est le plan de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, recouvrer la vue. Et la deuxième chose, c'est d'agir comme une personne confiante. Nous voyons dans le verset 5 que Pierre dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Vous savez que dans les milieux évangéliques, souvent on a l'impression que la sanctification se passe surtout par un zapping. Qu'il y a des domaines où je ne grandis pas, c'est Dieu qui doit faire, donc je reste passif par rapport à ces domaines, je ne fais rien sur le plan pratique, et j'attends que Dieu me fasse un coup de foudre. Et j'attends. Pourquoi est-ce qu'on pense comme cela? Une des raisons, je crois, c'est que on ne croit pas à qui nous sommes. Quand tu crois que tu es impuissant, que tu n'es pas un homme changé, que tu n'as pas ce qu'il faut, il te faut une doctrine de sanctification comme ça. Parce que la seule chose qui peut te faire avancer, c'est un zapping de la part de l'Éternel. Mais quand tu crois que tu es quelqu'un habité par l'Esprit Saint, dont le Père prend soin, comme une branche dans la vigne, uni au Christ ressuscité, uni à sa nature humaine sainte et parfaite, recevant par le Saint-Esprit des ressources de ce Christ, est capable. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'une doctrine de zapping. Vous allez tout simplement vous mettre en marche. Vous allez prendre les rênes de votre vie chrétienne. Et voilà la manière dont vous allez faire. Vous allez chercher quel est le but spécifique. Et Pierre devient très spécifique. Il nous fait toute une liste. Il faut que vous ajoutez ça et ça et ça. Au lieu de rester dans le flou, Seigneur, travaille en moi comme tu le veux. Tu vas commencer à prendre le contrôle de votre vie chrétienne sous Dieu et en dépendance. Et vous allez dire, il y a ce domaine et ce domaine et ce domaine où il faut que je commence à voir une différence. Et deuxièmement, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Et vous allez vous dire, mais quel est le problème dans ma vie de prière? Je ne crois pas vraiment que Dieu m'entend. Ou je me sens trop coupable pour vraiment penser que... Et vous allez détecter, vous allez commencer à penser bibliquement. Et vous allez contrer ces problèmes avec la parole de vérité. Vous allez attaquer le problème. Parce que vous allez croire que j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, vous allez tout simplement commencer à agir. Et les gens qui font comme cela grandissent. Parce que les promesses de Dieu sont réelles, les ressources sont réelles, la rédemption de Christ est très puissante, et le plan de Dieu, il est inlassable pour l'accomplir. Bon, j'espère que je ne vous ai pas donné l'impression d'un triomphalisme ou bien d'une fille de pom-pom, qui dit « Oui, vous pouvez le faire ». Ce n'était pas mon but aujourd'hui. C'était très positif, ce message. Mais ça reflète la réalité. Et ce que Pierre veut nous dire, que nous avons tout ce qui contribue à la vie et la piété. Nous avons franchi les eaux entre l'ancien monde et le nouveau. Nous sommes dans un monde où Christ est le maître, pas le péché. Et où nous avons tout ce qu'il faut. Alors, agissons. Que le Seigneur nous bénisse et nous montre comment donc prendre notre vie chrétienne en main à la lumière de sa parole et voir selon ses promesses merveilleuses. Voilà, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler autour du repas ou une autre fois. Mais je vous rappelle que très peu de choses vont arriver. Ici, dans le sermon, peut-être le Seigneur vous a alerté d'une chose importante pour vous, mais c'est en agissant confiante, en agissant sur la vérité, que nous sommes réellement changés et Dieu vous accompagnera. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci. David, pour cette édification. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas en anglais un concept qui n'existe pas en français, je crois, de empowerment ou empowering grace, c'est-à-dire la capacité de reprendre le pouvoir sur soi-même tout en acceptant l'idée que Dieu soit tout-puissant quand même. C'est un peu ce dont tu parlais,
oui,
non?
Oui, oui.
Oui. Comment est-ce qu'on dirait en français empowering grace? On n'a pas ce concept.
Non, c'est ce que je voulais dire par une vie équipée.
Oui,
en Christ, Paul dit, je peux tout par Christ qui me fortifie.
Oui.
Oui.
Merci. Nous allons maintenant passer à la scène. Sachant que nous sommes invités par notre Seigneur à prendre ce repas, sachant que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes invités à cette table précisément à cause de cela, mais à la condition que nous ne pratiquions pas délibérément le péché dans notre vie. C'est une nuance importante. Je vais lire le texte consacré. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu parles à nos cœurs à ce moment où nous voulons nous souvenir précisément, puisqu'il a été question de cela, de ce sacrifice qui nous a ouvert les portes du salut et de la vie éternelle. Et c'est vrai qu'il y avait avant et après, même s'il nous est arrivé trop souvent de chuter après. Seigneur, nous reconnaissons que maintenant, le péché ne domine plus sur nous, même s'il nous fait chuter quelquefois, malgré nous. Et nous nous confions uniquement en ta grâce pour tomber le moins souvent possible, et même si c'est ta volonté, plus du tout. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice incompréhensible et qui nous dépasse tellement que nous ne pouvons qu'y mettre notre confiance entière, sachant que ces choses-là ne sont pas des paroles en l'air, mais que notre salut est vraiment basé sur un événement historique. Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Aide-nous à nous souvenir de cela en prenant ces éléments qui nous rappellent ce sacrifice. Amen. Thank you. Le culte arrive sur sa fin. Je voudrais faire quelques annonces. Donc, nos annonces habituelles, c'est que le vendredi, nous avons une réunion d'études bibliques de prière chez David et Rachel. Dimanche prochain, le culte sera ici à la même heure, à 10h30. Et c'est tout ce que j'ai comme annonce. Est-ce que quelqu'un voudrais faire une autre annonce? Est-ce que quelqu'un voudrait proposer un dernier cantique?
Cent trente.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera.